VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Fin du suspense au Soudan du Sud, le chef de l'ex-rébellion Riek Machar est finalement arrivé aujourd'hui à Djouba, la capitale. Il a appelé à l'unité avant d'aller prêter serment comme vice-président. Les détails avec Idriss Fall.
Des colombes symbolisant la paix ont été lâchées à l'arrivée de Riek Machar à l'aéroport de Djouba. Il n'avait plus remis les pieds dans la capitale depuis le début de la guerre civile en décembre 2013. Son retour était attendu le 18 avril, mais a été repoussé plusieurs fois. Monsieur Machar est allé directement au palais présidentiel pour prêter serment comme vice-président. Il s'est dit engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible. Mais le plus difficile est à venir. Pour l'ancien président botswané Festus Mogae, former un nouveau gouvernement ne sera pas en soi la panacée. La rébellion a fait revenir 1370 soldats et policiers armés qui feront face à 3420 hommes du président Salva Kiir. Djouba est sous haute tension et le moindre incident pourrait remettre le feu aux poudres.
Tchad, l'état d'urgence en vigueur dans la région du lac Tchad pour lutter contre les attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram a été prorogé de 6 mois par l'Assemblée nationale tchadienne. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la radio publique. Cette prorogation de 6 mois permettra de mettre hors d'état de nuire ces diables de Boko Haram qui attaquent quand ils peuvent et par tous les moyens, a déclaré à la radio le ministre de la Sécurité Ahmad Mohamed Bachir après l'adoption à l'unanimité des 130 députés de la prorogation de l'état d'urgence décrété en novembre 2015. Au Niger voisin, la force mixte mise en place dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram est en cours de consolidation. Le général Lamidi Aderoshun, qui commande cette force, a fait le point sur l'avancée des travaux lors d'une conférence de presse à Niamey lundi, à laquelle a assisté notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
À Niamey, le commandant de la force est venu faire le point aux autorités des actions menées par cette force depuis janvier, date de son opérationnalisation. Commandant Lamidi Aderoshun.
It took some time before the forces were welded together.
Le démarrage a été laborieux, mais aujourd'hui toutes les forces sont déployées, elles sont opérationnelles. Je commencerai par le Niger. Nous avons Adifa, le PC du sous-secteur 3. Qui est co-localisé avec le PC de l'opération NGA. Ce sous-secteur travaille en collaboration avec le secteur 3 qui est basé à Baga au Nigeria. Vous êtes tous sans ignorer les prouesses du secteur 1 qui chaque jour lutte en bonne coopération et coordination avec les opérations nigériennes de l'IA.
The national operation NGA, which is also deployed to fight the menace of Boko Haram.
Tout se passe bien, donc, a semblé dire le commandant Lamidi, même si la force attend encore des moyens.
In concrete terms, the pledges are there.
Sur le soutien logistique de la force, je tiens à vous dire qu'il y a eu, après les différentes réunions, plusieurs engagements, des engagements pour un soutien, mais rien de concret n'a été fait. Tout ce que nous avons reçu au niveau de la force, c'est les moyens de communication et 11 véhicules. Même vous, les journalistes, vous auriez voulu avoir pour faire votre travail, mais vous le faites quand même avec le minimum qui est à l'autre. Donc mes forces ont le minimum et font avec le minimum qu'ils ont à disposition pour
assister people. Even outside the immediate environment, out of what is not enough.
Selon le concept de cette force mixte, le soutien est national, c'est-à-dire que ce sont les pays engagés qui soutiennent leurs troupes. Le même concept prévoit un soutien additionnel à la dite force. Et c'est ce soutien que l'Union africaine devait mobiliser qui tarde depuis bientôt 4 mois. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Nigeria, les chrétiens subissent des violences continues dans le nord du pays. C'est ce que dénonce l'ONG Portes Ouvertes en donnant le chiffre de 4028 chrétiens tués au Nigeria en 2015. Le point avec Maëlys Eagle.
portes ouvertes évoquent même une menace pour la survie de l'église dans le nord du Nigeria. Pour cette ONG, les élites musulmanes du nord veulent préserver leurs intérêts. Les islamistes radicaux comme Boko Haram s'attaquent aux chrétiens. Berger peuple musulman que la désertification oblige à migrer entre en conflit avec les populations chrétiennes. Quant aux autorités fédérales et locales, elles sont accusées de détourner les yeux sur ces discriminations et violences, alors que la charia est appliquée dans 12 États du nord du pays. Depuis l'année 2000, dans le monde, quelques 1,3 million de chrétiens ont été déplacés et plus de 13 000 églises ont été détruites, fermées de force ou abandonnées. L'Afrique est le deuxième foyer de persécution mondiale et même le premier en termes de chrétiens tués, en particulier au Nigeria.
En Gambie, la justice gambienne a décidé de maintenir en détention près de 40 opposants arrêtés à la mi-avril et accusés notamment de rassemblement illégal. Au total, 37 personnes, dont le chef du Parti démocratique uni UDP, principale formation de l'opposition, sont inculpées de 6 chefs d'accusation, dont rassemblement illégal et incitation à la violence, selon des sources judiciaires. Et puis au Burkina Faso, un ex-bâtonnier, maître Mamadou Traoré, a été inculpé et incarcéré pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, le gouvernement a lancé hier le tout premier emprunt obligataire de l'État malien, événement qui a eu lieu à l'hôtel Radisson Blue de Bamako sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé. Et en présence d'Amadou Baba Cissé, directeur de la SGI Mali, la société d'intermédiation et de gestion du Mali, en sa qualité de chef de file du syndicat de placement et de mobilisation de fonds. Les explications d'Amadou Baba Cissé au micro de Kadiatou Traoré.
Effectivement, nous avons lancé hier un emprunt obligataire de 65 milliards sur une maturité de 5 ans à 6,20%. C'est une émission pour l'épargne publique. On sollicite l'épargne publique des investisseurs, des particuliers de toute la zone IMOA et des institutions et établissements financiers. Pour une période de 3 mois, la souscription va durer 3 semaines, je veux dire. Et c'est fait pour les investissements, les infrastructures prévues dans le budget de l'État en 2016, notamment la route Bamako-Koulikoro, le deuxième pont de Kaï, l'étude du quatrième pont de Bamako et certains travaux dans le cadre du sommet France-Afrique 2017.
Pas un nouveau produit pour votre société, mais quand même c'est nouveau pour le Mali.
Je veux dire que ce n'est pas effectivement un nouveau produit dans la zone UEMOA. Il y a eu des centaines et des centaines de milliards mobilisés dans la zone UEMOA. Mais effectivement, c'est la première fois que le Mali lance un emprunt obligataire sur le marché financier. Et donc, pour cette raison, il ne fallait pas dépasser ce montant de 65 milliards. Mais nous nous rendons compte déjà 24 heures après le lancement que ça risque d'être un très grand succès, parce que nous ne sommes même pas loin de mobiliser le montant sollicité.
Le docteur Amadou Baba Cissé, directeur de la SGI Mali, chef de file du syndicat de placement et de mobilisation des fonds pour ce premier emprunt obligataire de l'État du Mali. Actualité aux États-Unis maintenant, première présidentielle cruciale aujourd'hui dans 5 États américains. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump espèrent donner le coup de grâce à leurs rivaux respectifs dans la course à la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
Les primaires de ce mardi se déroulent dans le Connecticut, Delaware, Maryland, la Pennsylvanie et Rhode Island. Hillary Clinton, qui souhaite devenir la première femme à occuper le bureau ovale, est confrontée à la ténacité du sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Mais l'ex-secrétaire d'État devrait aujourd'hui creuser l'écart en nombre de délégués. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump figure en tête des sondages dans ses 5 États. Même s'il mène largement, son populisme dérange au sein du parti républicain et certains complotent pour l'écarter. Justement, coup de théâtre hier, ses rivaux Ted Cruz et John Kasich ont conclu un pacte pour lui faire barrage, c'est-à-dire empêcher Donald Trump d'arriver avec la majorité absolue de 1237 délégués à la convention de juillet à Cleveland et favoriser ainsi la tenue d'une convention négociée où le parti républicain pourrait choisir un autre candidat que Trump. Un effort tardif toutefois, d'après des observateurs.
conflit en Syrie maintenant. Au moins 19 civils ont péri aujourd'hui lors des bombardements pro-gouvernementaux visant des zones rebelles et la localité d'Atareb dans le nord du pays. Ces frappes interviennent au lendemain du pilonnage par les rebelles des quartiers tenus par les forces gouvernementales dans l'ouest d'Alep, qui aurait fait au moins 19 tués et 120 blessés dans la population civile. La guerre civile a repris de plus belle en Syrie après plusieurs semaines de trêve mises en place principalement par les États-Unis et la Russie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.